BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et toute heure débute bien évidemment par un survol de l'actualité économique avec ce matin Raphaël Couder aux commandes.
BFM Business. L'info éco.
Et à la une, cet accord de principe trouvé entre Joe Biden et les Républicains sur la dette aux États-Unis, accord qui prévoit le relèvement du plafond d'endettement pour une durée de 2 ans tout en limitant les dépenses sur cette période. Le spectre d'un défaut s'éloigne donc, mais l'accord doit encore être approuvé au Congrès qui s'exprimera sur ce sujet ce mercredi. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan, réélu président pour un nouveau mandat de 5 ans, le dirigeant l'emporte au second tour avec un peu plus de 52% des suffrages. Son opposant, le candidat de l'Alliance des partis d'opposition, reconnaît sa défaite, mais il parle de l'élection la plus injuste depuis des années. En France, les difficultés de recrutement toujours très importantes dans l'hôtellerie-restauration. Malgré des hausses de salaire, le secteur manque encore de bras à l'approche de la haute saison. Face à cela, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie lance aujourd'hui sa plateforme Mon CV Num, une application qui regroupe tous les CV des demandeurs d'emploi du secteur. Écoutez justement à ce sujet Thierry Marx, le président de l'UMI qui était sur notre antenne ce matin.
Il reste encore 200 000 postes à pourvoir, c'est oui. Beaucoup. Et tout ça est lié à plusieurs phénomènes. Il y a aussi le phénomène du logement, un toit, un emploi. Ça, il faut le travailler. Mais là, on a trouvé l'idée pour fluidifier le recrutement et créer avec ce CV numérique un CV tech, finalement, pour l'ensemble de nos collaborateurs et de nos adhérents, pour pouvoir recruter beaucoup plus facilement.
Voilà, Thierry Marx, chef étoilé et président de l'UMI. Revolut passe à la vitesse supérieure. La néobanque britannique se lance à partir de demain dans le crédit à la consommation. Le groupe veut étendre sa palette de produits pour devenir encore un peu plus une banque comme les autres. Revolut vise en tout 100 millions de clients d'ici 2025, soit 3 fois plus qu'actuellement. Et puis, c'est une première pour ce pays. La Chine enverra demain un astronaute civil dans l'espace. Objectif: rejoindre la station spatiale de Tiangong qui est pleinement opérationnelle depuis la fin de l'année dernière. Une nouvelle étape dans la poursuite des ambitions d'exploration spatiale chinoise, alors que le pays prévoit d'envoyer un premier équipage en direction de la Lune d'ici 2029.
Merci beaucoup Raphaël. Raphaël Couder qui nous accompagne dans l'actualité économique chaque heure ce matin sur l'antenne. Et nous tout de suite on file sur les marchés.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Vous pourrez retrouver Thibaut François qui nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Un peu seul sur les marchés forcément parce que vous n'avez ni camarade allemand, ni camarade suisse, ni camarade anglais. Et cet après-midi, vous devrez vous passer des Américains.
On a un peu en solo effectivement sur le marché français ce matin. Bon, ça se voit dans les volumes. D'ailleurs, on a moins de 300 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40, donc c'est particulièrement faible. En plus, d'un point de vue actualité, d'un point de vue micro et macro, c'est vraiment le calme plat. On va pas donner notre avis sur la stratégie d'Euronext sur ses ouvertures, en solo sur le marché mondial. Mm-hmm. Bon, il se passe pas grand chose sur le CAC 40. On est en hausse de 0,10%. Donc, on suit un petit peu la tendance de fin de semaine dernière. On est plutôt dans un scénario.
On va juste dire, on pleurniche pas parce qu'on bosse aujourd'hui, hein. C'est juste qu'une séance, ça a un coût pour tout l'écosystème. Voilà. Et quand il n'y a pas de volume.
Exactement. D'avoir une harmonisation mondiale un petit peu des marchés financiers, ce serait quand même pas mal. Qu'on ait des jours fériés, ça me semble assez logique. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude d'ouvrir pratiquement tous les jours fériés, sauf pour Noël et sauf pour Pâques. Ouais. Mais c'est vrai que les autres jours fériés sont travaillés sur le marché financier en France. Et c'est vrai que ça soit en Asie, aux États-Unis, ou en Europe, d'ailleurs en Allemagne ou en Angleterre, c'est vrai qu'on a un peu plus de jours fériés. Et c'est vrai que d'un point de vue écosystème, ça me semble plus logique qu'on ait des jours fériés qui soient un petit peu harmonisés d'un point de vue mondial.
Bon, mais voilà, bon. C'est dit.
mais effectivement, derrière le marché cote en France, avec peu de volume forcément parce qu'on n'a pas les investisseurs étrangers, donc on a quelques petites valeurs qui bougent à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est assez confidentiel ce matin. dans le marché, on s'aperçoit que le pétrole est toujours très bien orienté. On suit un petit peu la tendance haussière de la fin de semaine dernière. On a un Brent qui repasse au-dessus des $77 et on a pas mal de valeurs, on va dire, qui deviennent pratiquement des penny stocks qui sont en bas de palmarès sur le SRD, avec des Orpea, des Rallye, des Nicox et des Casinos qui perdent entre 2 et 5%. Alors qui aurait cru que Orpea serait une penny stock il y a encore 18 mois, pas grand monde à mon avis, mais effectivement ça fait partie des valeurs aujourd'hui qui sont pratiquement dans penny stock, donc c'est en dessous de 1 euro normalement le penny stock, mais on s'en rapproche sur Orpea. Et c'est, on va dire, c'est pratiquement la seule actu qu'on peut trouver ce matin sur le marché boursier.
Alors justement, disons un mot d'Orpea là. Effectivement, il y a pas mal de choses qui se racontent,
hein. Oui, on continue un petit peu la logique, c'est-à-dire que le plan de la CDC, c'est de récupérer le capital au détriment des actionnaires minoritaires actuels. Donc aujourd'hui, l'AMF a annoncé que la CDC avait une dérogation pour la CDC, notamment pour le franchissement de seuil. Donc ils vont pas être obligés de lancer une OPA, parce que vous le savez, Cédric, c'est-à-dire qu'une société qui franchit les 30% d'une entreprise est obligée de lancer une OPA derrière. C'est aussi pour ça, par exemple, que récemment, notamment la semaine dernière, Bolloré a vendu des titres Vivendi pour éviter de passer au-dessus des 30% lorsqu'ils vont finaliser leur opération au mois de septembre. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un reflux de titres sur Vivendi. Donc aujourd'hui, donc la CDC ne va pas être obligée de lancer une OPA, donc ça, ce qui favorise le plan. Et aussi annoncé, c'est que les créanciers et les actionnaires vont être viennent d'être convoqués pour voter sur le nouveau plan qui interviendra le 16 juin 2023. Et donc, a priori, les actionnaires devraient voter contre, forcément, parce qu'ils sont fortement dilués, et les créanciers devraient voter pour, parce qu'ils vont pouvoir récupérer une partie du capital et une partie aussi d'actions derrière. Voilà, donc ça continue, le plan continue. Les prochaines étapes, c'est aussi l'ARS qui va devoir valider le changement d'actionnaire, mais ça ne devrait pas poser de problème comme l'AMF dernièrement. Et l'objectif de finaliser ça, T3, T4, pour lancer le nouveau plan Orpea et, on va dire, sécuriser l'avenir d'Orpea pour les prochaines années. Donc, dans un premier temps, forcément, dilution du capital et donc Orpea qui se rapproche du 1 euro, qui est a priori un prix d'équilibre pour Orpea suite à la grosse augmentation de capital qu'il prévoit dans les prochaines semaines.
Voilà donc pour le dossier Orpea et puis un petit mot d'ALD également.
Oui, on va finir sur une note positive quand même, ça c'est plutôt bien. ALD a finalisé la semaine dernière son opération et donc l'acquisition de LeasePlan. Donc ça veut dire que ALD devient le leader mondial sur tout ce qui est mobilité durable, donc avec la location de véhicules longue durée. Donc c'est une superbe opération que réalise ALD. L'opération devrait apporter des synergies extrêmement importantes pour le groupe qui devrait être affiné, on va dire, dans les prochaines semaines. Et donc ça fait partie des choses qui sont à suivre. Le titre est particulièrement mal valorisé. Alors certes endetté, mais avec un stock de véhicules qui est extrêmement important, un peu plus de 3 millions de véhicules partout dans le monde. Et donc cette opération devrait être particulièrement rentable pour les actionnaires et on gagne en visibilité, en tout cas sur le dossier ALD. On est toujours à l'achat de notre côté avec un gros rendement et une faible valorisation.
Thibaut François, donc, depuis Fastea Capital, pour ce regard sur ce lundi de Pentecôte côté. Et on rappelle que les marchés sont clos au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, ce qui explique des volumes un petit peu faméliques. Ce sera fermé également tout à l'heure aux États-Unis pour cause de Memorial Day. Le CAC 40, donc, qui grignote 0,09%, 7325 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
Notre stratège aujourd'hui, c'est François Dossou. Bonjour François.
Bonjour Cédric.
Pour Siena Gestion. Ouf ! A priori, le psychodrame de la dette américaine est évité.
Oui, je voudrais, on peut dire pour la 78e fois, hein, parce que je rappelle que depuis 1960, c'est à peu près 78, et là peut-être 79e fois que...
On relève ce plafond
avec toujours ce cirque sur un dénouement de dernière minute. Bon, quand vous regardez la réaction du marché ce matin, vous comprenez qu'en fait, la semaine dernière, lorsqu'on avait déjà des anticipations, encore le marché avait déjà commencé à... Le marché n'est pas loin de son plus haut, donc ça veut dire que ce psychodrame, en fait, le marché n'en a pas vraiment tenu rigueur et que le marché aujourd'hui est plutôt prêt à regarder et à regarder de l'avant.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, le défaut américain, a priori, sera évité. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres risques, selon vous, qui perdurent ?
Alors, le défaut sera évité, comme vous le dites, a priori. Parce qu'en fait,
faut voter, etc. Ouais.
Faudrait-il rappeler en fait qu'il doit être validé par la Chambre des représentants et qu'aujourd'hui, contrairement aux situations antérieures, on est dans un environnement où les deux clans sont un peu plus dispersés. En fait, ils communiquent et ils votent un peu moins de manière un peu plus désordonnée. C'est un peu, ce n'est pas sans nous rappeler une situation
que l'on connaît un petit peu,
en France. Donc, il y a quand même une incertitude. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est dans une élection qui va en 2024. Et aucun camp ne prendra le risque d'aller au défaut, et qu'on va trouver un accord à minima et que les ambitions, et c'est de bonne guerre en fait de montrer qu'on a une divergence avec le petit copain, mais tout ceci n'est pas de nature en fait à nous entraîner dans la crise systémique à laquelle en réalité nous n'avons jamais cru.
Quels sont sinon donc les risques qui selon vous existent encore ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'il y a peu de risques qui aujourd'hui planent sur les marchés? On parle par exemple de la Fed qui craint cette contraction plus large de crédit qu'on observe un peu aux États-Unis. Enfin, voilà. Quels sont éventuellement les risques, s'il y en a, que vous avez identifiés?
Alors, les risques qu'on peut identifier quand même, si on reste toujours sur le domaine de la dette américaine, c'est qu'il va falloir la financer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit vous pouvez augmenter le plafond, il y aura un afflux de démissions qui va arriver sur le marché, et donc il va falloir financer dans un environnement où la liquidité est quand même particulièrement faible et que vous êtes en plein tightening, vous êtes dans des retraits de liquidité, vous avez aussi des taux qui sont remontés, vous allez sur un renchérissement des niveaux de financement, donc naturellement aujourd'hui vous avez un environnement qui n'est pas très propice à se refinancer et qui peut peser en termes de liquidité sur le marché. Donc, bon, non, la messe n'est pas encore dite, mais tout ceci n'est pas de nature quand même à nous amener dans un environnement systémique. Et surtout, lorsque vous vous appelez les États-Unis et que vous avez le dollar, moi, je ne vois pas beaucoup de signes. Je ne vois pas beaucoup de signes de défiance aujourd'hui vis-à-vis de la dette américaine. Lorsqu'on regarde l'euro-dollar, c'est quand même peut-être le meilleur indicateur. Il est revenu à 1,06, 1,07. Donc, moi, je ne vois pas de signes de défiance. À juste raison, quand vous avez aujourd'hui probablement l'actif le plus sûr qui vous rapporte 5% par an, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter.
Pas de raison de s'en privé.
Oui, je pense que quand même c'est plutôt bien rémunéré.
Un mot aussi peut-être du reste de la planète économique et notamment d'un autre sujet qui a beaucoup fait monter les marchés, c'était le retour de la Chine sur la place mondiale avec la fin des mesures anti-Covid, etc. On a l'impression que ce retour, on l'a très longtemps pricé, comme on dit en bon français. Et que là, c'est un peu en train de décevoir. Oui. Comment est-ce que vous voyez les choses sur cette question chinoise?
Alors, pour moi, la question chinoise, c'est comme l'inflation. Je pense qu'on est trop pressé. En fait, on est trop pressé. Ce qu'on constate...
On veut tout de suite, quoi.
Voilà, on veut tout de suite. Hein. On veut tout de suite. La reprise chinoise, comme dans les pays européens, elle a commencé par se retrouver dans les services. Aujourd'hui, en fait, si on regarde la photo depuis le début de l'année, c'est plutôt l'année des services. Mais ça, ce n'est pas spécialement lié à la Chine. Nous sortons d'une pandémie. Et donc, les services, et on voit bien que l'inflation aujourd'hui, elle est notamment dans les services, elle est en train de se transférer au niveau de l'économie, au niveau des marges des entreprises via une augmentation des salaires. Donc, aujourd'hui, la problématique, c'est d'abord une problématique de timing. Donc, les services se portent bien, y compris en Allemagne où on a vu quand même qu'il y a eu une récession. On nous a annoncé la récession, c'est-à-dire deux trimestres consécutif de recul du PIB la semaine dernière, on voit que les services continuent à tenir. Donc, après les services, aujourd'hui, la problématique que nous voyons, c'est qu'il y a une grosse dichotomie entre les PMI services et les PMI industriels. Les PMI industriels, naturellement, la Chine pèse lourdement dessus, mais ce qui va se passer, c'est qu'après les services, nous sommes très confiants sur le fait que le manufacturier va reprendre le relais. Donc, et un seul indicateur hein, pour le montrer, hein, y compris en Allemagne, comme je disais tout à l'heure, où les chiffres sont plutôt mal orientés avec une croissance qui est en recul, on se rend compte qu'au niveau de l'IFO, il y a déjà un rebond au niveau des secteurs qui sont plus en amont du processus de production, c'est-à-dire la chimie. Bon, vous savez que l'Allemagne, une des raisons pour lesquelles elle est tombée en récession, c'est quand même sa dépendance au gaz et l'envolée des prix du gaz. Nous constatons quand même que aujourd'hui, après ce choc pétrolier, on va assister à un contre-choc et naturellement, on va commencer à avoir un rebond sur les secteurs les plus cycliques, les plus en amont du processus et ça devrait améliorer les indicateurs industriels.
Donc en clair, en fait, fondamentalement, c'est juste se donner du temps. Laisser à nos économies, quelles qu'elles soient, le temps de digérer ces quelques années de pandémie qui ont un peu
absolument
chamboulé.
Absolument. En fait, si on refait un peu de prospective, en fait, on se rend compte que les banques centrales, elles ont agi, elles ont mis beaucoup de liquidités sur le marché. Elles sont dans une logique de réduction de cette liquidité. Donc la réduction de cette liquidité se traduit par une normalisation du système économique. Donc la normalisation du système économique, après tant d'années d'injection de liquidités, va d'abord se traduire par des soubresauts, va pouvoir par de la volatilité, par de la normalisation, mais quelque part, en fait, tout ceci est très diffus. On a eu une sorte de tsunami au niveau de l'inflation qui, aujourd'hui, est entrée par vagues successives et est entrée petit à petit de retourner dans son lit. Donc, il faut du temps. Comme l'inflation va finir par revenir dans des
zones plus accessibles, ordinaires.
Plus ordinaires. Nous ne croyons pas vraiment à cette convergence vers 2%, mais si la Fed, en fait, accepte une inflation aux environs de 3-4%, je pense que avec une politique monétaire qui est aujourd'hui à son pic, donc on va pouvoir souffler aussi sur les hausses de taux qui ont été assez spectaculaires, 500 BP de hausse en un an, et donc un impact qui peut être relativement significatif sur l'économie. On va avoir progressivement une inflation qui va baisser, on va avoir progressivement des salaires qui vont prendre le relais, c'est-à-dire que c'est l'OCDE qui le dit, pour que les salaires compensent l'inflation, il faut à peu près 2 à 3 ans. Et donc on va se retrouver, je ne suis pas spécialement très pessimiste, parce qu'on va se retrouver dans un cadre où les salaires réels vont repasser positifs. Mmh. Et ça, c'est de nature à soutenir la consommation et à pouvoir entretenir une croissance qui, on est bien d'accord, ne va pas être d'une ampleur massive, mais on pourrait éviter cette récession sur l'ensemble des pays de la zone euro.
Comment on fait quand on est épargnant, qu'on a des billes en bourse, comme on dit, et qu'on se dit, on est peut-être aussi à un moment de césure, il va peut-être falloir que j'ajuste un peu le portefeuille qui m'a porté ces derniers mois. À quoi ça ressemble les arbitrages actuels chez Siena?
Alors, les arbitrages actuels, c'est peut-être sortir un peu des indices. Hein. Effectivement, en gérant actif fondamental, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que quand on regarde les indices globaux, ils sont plutôt bien valorisés. Hein. Et là, je parle de la classe active. Par contre, on a un marché à deux vitesses. On a une dichotomie entre des valeurs, et c'est les valeurs de consommation en or, notamment le luxe. C'est aussi les valeurs de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Hein. Nvidia, la semaine dernière, 24% en une séance, ça fait 160% depuis le début de l'année. Bon, je pense que, en fait, sur tout le pan des semi-conducteurs, vous pouvez commencer à prendre des profits et plutôt vous orienter vers des sociétés de services qui, elles aussi, vont bénéficier de l'intelligence artificielle. C'est des Dassault, c'est des Nemetschek qui, eux, vont justement exploiter, en fait, cette intelligence artificielle à travers des algorithmes plus complexes. Donc, ça, c'est les arbitrages que nous pouvons faire au sein même de la technologie pour vous montrer qu'en fait, tout n'est pas forcément excessivement cher. Vous avez des pans de la côte qui sont restés totalement à l'écart de cette tendance de hausse. C'est la banque, hein, la banque qui souffre toujours de cette crise bancaire qui a eu lieu aux États-Unis, mais qui, aujourd'hui, n'a toujours pas retrouvé ses cours. Le paradoxe de la banque, et donc nous restons très positifs sur la banque, c'est que vous avez des valorisations qui oscillent entre déprime et panique totale, alors que vous avez un secteur qui, au cours du dernier trimestre, affiche encore des marges historiques. Et je pense que le marché se trompe un peu sur les banques, parce que c'est le phénomène de hausse de taux qui a entretenu la marge des entreprises va se poursuivre. Mmh. Pour donner un exemple très très simple, lorsque les banques, les crédits vont se renouveler, ils vont se renouveler à des niveaux plus élevés que par le passé. Et donc, ça va on a encore des surprises positives à attendre sur les banques européennes. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes acheteurs des banques européennes. Un portefeuille équilibré aussi, parce que quelque part, je pense que les télécoms, au cours des dernières semaines, ont plutôt eu tendance à sous-performer, parce que vous avez eu des EBITDA, des marges EBITDA, des marges d'exploitation qui ont été un peu décevantes au premier trimestre, sur une hausse des CAPEX qui n'était pas anticipée. Je pense qu'aujourd'hui, dans le marché, en fait, les télécoms représentent une belle alternative, avec notamment la perspective du M&A, des fusions acquisitions.
Il y a du rendement en plus.
Et aussi du rendement, et des valorisations qui sont plutôt attractives. Non, dans ce marché, il y a des choses à faire. Et nous ne sommes pas dans un scénario catastrophe où nous pensons que les marchés, il faut surtout commencer à les éviter. Non, nous pensons qu'il y a des arbitrages à faire. Il faut se méfier des valeurs qui ont très... les grands noms de la côte qui ont fortement monté, sans pour autant démériter. Je pense qu'il y a des entreprises aujourd'hui, en faisant un tri sur leur rendement et leur valorisation, vous trouvez sur la côte un certain nombre d'idées à jouer pour le moyen terme.
Merci François. François Dossou et Siena Gestion qui nous accompagnaient ce matin. Tout de suite, on jette un petit coup d'œil sur nos marchés. Le marché parisien, 7323 points, il progresse de 0,06%. Oui, c'est mou, oui, c'est peu travaillé. Il faut dire qu'il y a beaucoup de marchés fermés ce matin en Europe et ce sera le cas aussi aux États-Unis pour cause de Memorial Day. Oui, voilà, cet après-midi aux États-Unis, quelques valeurs dans le vert à Paris, Unibail, Eurofins et Veolia. Quelques dégagements sur ST Micro, Soggen ou encore Téléperf. L'eurodoll est à 1,0720.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Stéphane Frag.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, le cofondateur d'Ocure. Dans un mois tout pile, on se retrouvera pour la rencontre Ocure 2023, en partenariat bien sûr avec BFM Business.
Exactement.
Vous nous présentez cet événement d'abord ?
Oui, alors effectivement, j'y moins un mois exactement aujourd'hui. Donc alors c'est un événement vraiment qui rassemble tous les acteurs de la profession. Là, l'objectif est de créer donc des moments de rencontre et d'échange sur à peu près tous les domaines qui concernent le patrimoine. Donc des ateliers, dont un atelier, Cédric, on est ravis que tu puisses l'animer avec tous les présidents et toutes les associations qui gèrent ce marché. Donc voilà, l'idée est de revenir sur des moments un peu forts du
premier semestre. Donc des CGP, des familles offices, des notaires,
des avocats, des sociétés d'investissement, cotées, non cotées, obligataires, immobiliers, infrastructures, assurances vie françaises et luxembourgeoises, tout ce qu'on peut imaginer, même France Invest sera là, sur la partie notamment private equity. Donc voilà, l'idée c'est de réunir au cours d'une journée, on attend un peu plus de 450 personnes, tous les acteurs de la gestion de patrimoine et en partenariat avec BFM.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Vous l'avez dit, il y a des ateliers, il y a des conférences. Voilà, qu'est-ce qu'on va trouver dans le programme de cette rencontre au CURE ?
Alors donc le matin, donc on a les présentations donc des différents acteurs, donc les prix pour les conseillers en patrimoine, les familles offices, les banquiers, les avocats. Donc session de pitch le matin, déjeuner l'après-midi. Donc on a trois conférences. Donc une conférence sur l'impact investing, qui est un sujet du moment sur l'investissement. Une conférence sur le non coté, qui est aussi présent dans beaucoup de portefeuilles aujourd'hui. Et nous aurons la joie de t'avoir, toi, Cédric, pour la partie donc président d'association. Et donc, comment ce marché évolue depuis quelques années et surtout, quel est l'avenir de ce marché. Remise de prix à partir de 18h30 de mémoire. Et puis, on enchaînera par un cocktail. Il va se passer beaucoup de choses. Ouais.
Parce que, justement, en fait, c'est aussi une rencontre qui se veut basée énormément sur la rencontre.
Exactement.
Sur le networking. Enfin, je veux dire, ça n'est pas juste qu'une succession d'ateliers, de conférences, etc. Il y a aussi des tas de temps. Alors dites-nous un peu, ça ressemble à quoi cette journée en dehors de
voilà ouais, d'écouter
des ateliers traditionnels. Des ateliers.
Oui, effectivement. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités de networking, donc des endroits spécifiques et donc on a donc des ateliers très sérieux, mais également on a donc pour ceux qui aiment la pétanque, qui pourront jouer un petit peu la pétanque pour créer un peu des liens pour ceux qui se connaissent pas, par exemple. Il y en aura d'autres qui feront un petit peu de barque. On a de la chance d'être sur une île privatisée pour Ocure, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y aura du baby foot, je crois. Donc l'idée c'est de vraiment de créer des moments de liens quotidien où les gens se rencontrent ou se retrouvent parfois, parce que le quotidien fait qu'on peut pas toujours discuter avec des partenaires que l'on a. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment 80% de la journée au cure, c'est vraiment des moments où les gens peuvent se parler.
Ouais. Et cette convivialité, elle aide aussi à construire la gestion de patrimoine
exactement.
De demain,
tout à fait.
De trouver les bons actifs, les bons acteurs, etc. C'est ça qui est important.
Exactement. On part du principe, en tout cas, nous, on est convaincus que, en fait, aujourd'hui, c'est un métier qui est très intuitu-personné. Et donc, les gens ont besoin de se parler. Ils tournent autour de leurs clients pour les servir de la meilleure des façons. Donc, tous les experts, l'interprofessionnalité, c'est important que tous ces experts puissent se parler pour servir le client final. Et donc, c'est vraiment tout l'objet de la rencontre au cure.
Donc, dans un mois, effectivement, depuis le Chalet des Îles, dans le bois de Boulogne, et effectivement, BFM Patrimoine sera sur place pour vous informer tout au long de la journée. Et puis après ce rendez-vous, la communauté ne sera pas oubliée jusqu'à l'année prochaine.
Exactement.
Puisqu'on a, entre guillemets, la deuxième mi-temps qui se déroulera au mois de novembre au Palais Brongniart avec
exactement.
BFM Patrimoine, l'événement.
Exactement.
Là, c'est l'inverse, c'est nous qui sommes aux commandes, c'est vous qui nous accompagnez.
Voilà, et c'est nous qui venons, donc on est ravis, on avait annoncé ce partenariat avec vous, donc on est ravis de vous accompagner. Aussi. Donc là, l'idée, c'est toute la communauté au cure se donnera rendez-vous également le 21 novembre au Palais Brongniart. Et donc là, idem, on va retrouver toutes les associations de professionnels, les multifamily offices, les conseillers en gestion de patrimoine, les banques privées, les assureurs, les sociétés d'investissement. Donc, voilà, l'idée est de donner deux temps forts dans l'année, donc à l'occasion donc, de ces deux rendez-vous, donc le premier au cure et le deuxième le 21 novembre au Palais Brongniart. Donc on est ravis d'avoir deux rendez-vous majeurs comme ça et ravis de ce partenariat avec vous.
Merci Stéphane. Stéphane Frag et au cure qui nous accompagne donc régulièrement, qu'on retrouve sur le plateau et on en est ravis. À très bientôt.
À bientôt, Cédric.
Le marché parisien quasi étale. Plus 0,06%. On va voir tout de suite ce qu'en dit Andrea Tweny.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file tout de suite comme promis sur le marché pour prendre le pouls graphique de cette quasi non-séance puisqu'il y a de nombreux marchés fermés en Europe. C'est fermé aussi à Wall Street aujourd'hui. Donc Andrea Tweny, il tourne un peu en rond sur un marché quasi étal, non ?
On est pile poil à l'équilibre au moment où on se parle. Donc en effet, il y a pas grand chose, il n'y a pas de volume, il y a une activité qui est quand même assez faible. On avait commencé sur un rythme un peu plus soutenu, enfin sur une hausse un peu plus soutenue puisqu'on était revenu au-dessus des 7350 brièvement. Mais là, on voit qu'on revient tranquillement à l'équilibre, donc il se passe pas grand-chose. On a donc en effet les États-Unis qui sont fermés, Londres qui reste fermé aussi. On a des marchés qui ont été quand même rassurés en fin de semaine dernière par l'accord, hein, enfin l'accord de principe hein, sur le plafond de la dette américaine. On voit d'ailleurs que les CDS aujourd'hui ont un petit peu baissé, hein, donc le coût d'une garantie contre un défaut des États-Unis est en baisse, donc on voit quand même qu'un marché qui se calme globalement par rapport à cette question-là, qui avait animé les dernières semaines et notamment la semaine dernière avec des inquiétudes que on mette plus de temps à obtenir cet accord de principe. Alors il reste quand même quelques étapes, hein, notamment le vote au Congrès n'est pas non plus une formalité. Donc même si ça devrait bien se passer, il faudra quand même suivre l'évolution et suivre du coup l'issue de ce vote pour être sûr qu'on obtienne un accord et qu'on puisse aller de l'avant sur cette question-là. Mais en tout cas, voilà, on sent quand même qu'on a un marché rassuré et qui a du coup pu reprendre de la hauteur en fin de semaine dernière. On a d'ailleurs justement ce niveau de support, hein, 7350, 7360 sur le CAC, avant la zone 7380, 7004. Et sinon, bon, toujours des niveaux d'appui possibles sur 7280, 7250 et jusqu'à 7200, qui est un niveau sur lequel on a rebondi la semaine dernière. On voit aussi des marchés américains qui sont sur une bonne tenue, où là aussi on est repassé au-dessus des 4200 points sur le S&P. On a aussi le Nasdaq qui se porte très bien, toutes les valeurs de la tech qui tirent le Nasdaq vers le haut. La vraie question aujourd'hui, au-delà de cette question de la dette américaine, celle qui peut interroger et celle qui peut être une menace à court terme pour les marchés, c'est la question autour de l'inflation politique monétaire. On a vu la semaine dernière cet indice Core PCE qui est ressorti en hausse et qui relance du coup, qui prouve que l'inflation est toujours un sujet central, en tout cas sur les marchés. Et c'est vrai que cette question, elle est soulevée aussi par l'évolution des taux, où moins un marché des taux et un marché des devises qui évolue, hein, qui est impacté directement par cette évolution de l'inflation et par cette probabilité de hausse des taux de la Fed qui a été largement repricé. On est repassé au-dessus de 60%, alors que la semaine dernière on était à 20% pour une hausse de taux de la Fed au mois de juin. Et on voit du coup les taux longs, on est à 3,80, c'est encore plus flagrant sur les taux courts, mais il n'y a pas vraiment d'impact pour le moment, encore une fois, sur les marchés actions pour le moment, qui font preuve d'une certaine complaisance, qui reste quand même très optimiste sur cette question-là pour le moment. Mais sur les devises aussi, c'est assez flagrant. On a l'euro-dollar qui teste les 1,07. On a un mouvement encore plus flagrant sur le yen, hein, dollar-yen, on était quasiment à 141. Sur les taux, comme je le disais, mais c'est vrai que pour le moment, pas sur les marchés actions. Donc ça peut être une problématique sur le plus long terme. Il faudra du coup surveiller cette évolution, jusqu'où les taux peuvent monter, jusqu'où les probabilités, hein, de hausse de taux pourraient être révisées, à quel moment les marchés actions pourraient eux aussi commencer à opérer un léger repricing. Pour le moment, encore une fois, c'est pas flagrant, on a plutôt cette complaisance. Donc il faudra voir si ça se poursuit et si ça peut résister à une mise à l'épreuve qui sera plus importante. D'accord. Un peu plus tard dans la semaine, avec des volumes qui vont s'étoffer petit à petit.
Merci beaucoup, Andrea. Andrea Tweny et Saxo Bank qui nous accompagnaient ce matin donc dans ce marché un peu inexistant. Plus 0,02 pour le CAC à 7320 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Frédéric Lorenzini, comme chaque lundi à cette heure-ci. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous, ouais, pour répondre à cet auditeur qui nous demande ce qu'est un fonds fermé comme le MME 2028 et du coup ce qu'il faut en penser.
Alors il y a plusieurs questions. C'est quoi un fonds fermé? Souvent dans l'esprit des gens, un fonds fermé c'est un peu comme un fonds échéance. Et c'est vrai que le nom MME 2028 sans le fonds échéance,
ouais, c'est ça.
Les fonds échéance, ce sont des fonds obligataires. C'est du buy and hold. J'achète des obligations un petit peu à la ramasse et puis je mets ça en portefeuille. Puis je porte jusqu'au remboursement. Et souvent vous avez une durée de vie de 3, 4, 5 ans. MME 2028, c'est pas du tout un fonds échéance, c'est pas du tout un fonds obligataire. MME 2028, ça veut dire Moneta, micro-entreprise 2028. Moneta, c'est une société de gestion.
Qu'on connaît bien.
Qu'on connaît, avec Romain Burnand à sa tête. Micro-entreprise, ça veut dire qu'on va investir dans des très petites valeurs. Moneta gère un Moneta micro-entreprise depuis près de 20 ans.
Ouais.
Et puis 2028, c'est que c'est un fonds qui s'inspire de Moneta micro-entreprise, mais avec quelques différences. Et entre autres, c'est un fonds qui sera, si vous investissez dans ce fonds, eh ben, vous ne pourrez pas ressortir avant 2028. Vous allez être scotché pendant 5 ans. Et puis, dernier point à savoir, vous ne pouvez souscrire à ce fonds MME 2028 que jusque fin juin. Donc, il y a une fenêtre d'entrée qui est courte. Et puis après, vous portez le fonds jusqu'à une fenêtre de sortie en 2028. Vous portez pendant 5 ans.
Et pourquoi bloquer l'argent ?
C'est un acte de gestion comme un autre. Quand vous investissez dans des micro-entreprises, ce sont des entreprises très petites qui ne sont pas très liquides au niveau boursier. Donc c'est difficile d'entrer et de sortir. Je vais prendre l'exemple de l'entreprise Atlan. Atlan, c'est une entreprise cotée qui fait partie de l'indice CAC Small and Mid Cap 190. Donc le fait d'appartenir à un indice vous donne une certaine visibilité, normalement une certaine profondeur de marché. Mais il y a des jours, cette valeur Atlan s'échange à moins de 10 titres sur la séance. Ouais. Donc, quand vous êtes sur des micro-caps, micro-entreprises,
ça se gère pas comme
ça ne se gère pas comme,
comme
Total.
Un cap, quoi.
Total, vous rentrez, vous sortez, il y a du volume, il y a des millions qui s'échangent tous les jours. Donc, sur les micro-entreprises, il n'y a pas de profondeur de marché. Il peut y avoir des opportunités, mais il n'y a pas de profondeur de marché. Donc, le deal, c'est de dire aux gens, eh ben, écoutez.
Faites-nous confiance et on va
voilà. Et c'est assez logique parce que la liquidité, le fait de pouvoir rentrer, sortir, on y est habitué avec les fonds et c'est gratuit. Et en fait, la liquidité, normalement, ça a un coût.
Eh oui.
Et ce fonds s'inspire de Moneta micro-entreprise qui a près de 20 ans et qui a suspendu ses souscriptions il y a à peu près 14 ans quand oui, il avait atteint les encours de 130-150 millions d'euros parce que c'est des fonds sur lesquels on peut pas non plus
gérer des milliards, bah évidemment.
Ou d'argent parce qu'il n'y a pas une grosse capitalisation. Donc, est-ce que pourquoi bloquer l'argent? Mais parce que c'est un acte de gestion.
Il y en a beaucoup des fonds fermés comme ça?
Non, il y a pas beaucoup de fonds fermés. Non, c'est même plutôt rare. Il y a des fonds à formule. Les fonds à formule, souvent, il y a une fenêtre de tir. On vous dit, bah, vous pouvez souscrire jusque, on va dire, fin juin 2023. Et puis, chaque année, on regarde la performance. Il y a une fenêtre de sortie où on vous dit, bah, ça sera dans 3 ans. Il y a des fonds qui ont des difficultés au niveau des liquidités. On va pas rappeler, mais H2O a eu un de ses fonds il y a quelque temps qui a été suspendu. On pouvait plus rentrer et sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Moneta a fait plusieurs versions un peu datées de son fonds Moneta Micro-Entreprise. Il y a eu un MME 2026, un MME 2027, et maintenant il y a un MME 2028. Ouais. Voilà.
Rester bloqué, faut le concevoir, mais c'est pas forcément gênant.
Si. C'est pas forcément gênant. C'est pas. Je disais, c'est un acte de gestion comme un autre. C'est pas forcément gênant. En tous les cas, il faut être en capacité de bloquer son argent 5 ans. Il faut être sûr de ne pas en avoir besoin. Et la réalité, c'est que ce MME 2028, c'est pas un fonds totalement comme les autres. C'est ce qu'on appelle un FPC. Un FPC, c'est quoi? C'est un fonds professionnels spécialisés, ça s'adresse soit à des professionnels, soit à ce qu'on appelle des investisseurs qualifiés qui sont capables de mettre minimum 100 000 euros.
Acte de gestion qui marche. Et ça donne des performances.
Oui, ça donne des performances, parce que quand on regarde le fonds, le porte-avions, le Moneta micro-entreprise, ça a donné plus de 13% par an sur 10 ans et 15% par an sur 20 ans. Alors attention, c'est une moyenne, vous avez des années.
Bien sûr.
C'est plus, hein, en 2019, ça a été 26%, et puis en 2022, ça a été moins 8%. Mais oui, ce fonds, ça marche. Ça a marché.
Bon, on y va, donc il n'y a pas de réserve?
Alors, c'est pas vraiment une réserve, mais on l'a dit, c'est minimum 100 000, donc il faut avoir les quand même.
Les reins solides.
C'est 5 ans, hein, faut être sûr de ne pas avoir... La réserve, s'il y a quand même une petite réserve, c'est qu'aujourd'hui, le fonds phare Moneta micro-entreprise, il a des encours à 460 millions d'euros. Donc, on est loin du plafond que s'était fixé l'équipe il y a 20 ans. On disait, on peut gérer raisonnablement 100, 130, 150 millions. Alors, cet encours, il est lié à la valorisation des sous-jacents. Mais quand même, moi, je suis un peu gêné quand je regarde le portefeuille de ce fonds Moneta micro-entreprise. Je vois des valeurs comme BNP Paribas, je vois des valeurs comme Bolloré, je vois des valeurs comme FH. C'est pas du tout des micro-entreprises. Et donc, ce que je me dis, on n'est plus sur les micro-capitalisations, on le voit bien en regardant la boîte de style, il y a une espèce de dérive de style. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ce fonds investissait sur des micro-caps et il a été obligé de changer son terrain de jeu. Alors, ce n'est pas exceptionnel, ça arrive. Souvenez-vous, il y a 20 ans, il y avait un fonds qui s'appelait Agressor. Okay. C'était sur des petites valeurs et puis progressivement, il avait dérivé sur des valeurs moyennes et des valeurs plus grosses. Oui. Donc c'est un peu ça.
C'est la rançon du succès.
C'est un peu ça la réserve que j'aurais sur Moneta micro-entreprise.
Merci beaucoup Frédéric Lorenzini. Et donc ce focus proposé sur les fonds fermés et l'illustration de ce MME 2028. À bientôt.
À bientôt.
Le CAC étale plus 0,02, 7320 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Il y a quelques jours, Christian Fontaine était avec nous pour répondre à toutes vos questions. Et on commençait par cette question de Jacques, dont la femme était décédée et dont la banque avait prélevé 4 857 euros de prélèvements sociaux sur le PEA. Et Jacques se demandait si tout était bien normal. La réponse de Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu.
Alors, c'est pas surprenant, en tout cas. Effectivement, en cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en action, il y a quand même quelques 5 millions en France, le plan est automatiquement clôturé et la banque prélève les prélèvements sociaux, donc sur les gains, donc au sein du PEA, donc prélèvements sociaux calculés à un taux en fonction, donc ce qu'on appelle un taux historique, c'est-à-dire en fonction de la date de réalisation du gain, et à 17,2% pour les gains engrangés depuis le 1er janvier 2018. Donc, a priori, sous réserve d'une vérification du dit montant, mais cela pourrait être normal. La bonne nouvelle, entre guillemets, pour Jacques, c'est que ce montant doit être absolument indiqué à son notaire et il viendra augmenter le passif successoral. Donc, ça viendra en déduction de l'actif et donc, comme ça, ça évitera de payer des droits de succession sur ce montant. C'est vrai que
on va dire tout de suite à Jacques que il va être obligé de faire confiance, hein, parce que calculer lui-même, c'est niette.
Oui,
hein,
c'est quasiment impossible. Enfin, il faudrait, je dirais, avoir une mentalité d'archiviste et une documentation bien renseignée, puisque pour calculer lui-même ce montant des prélèvements sociaux, il faudrait connaître la date de tous les versements, la date du PEA à chaque date de changement, donc alors du taux de la CSG, en fait. Donc bon, en pratique, c'est quasiment impossible de calculer ce taux de prélèvement.
Donc, il est obligé de faire soi-même. Confiance là-dessus. Hein.
Voilà, il est obligé de faire le moment là-dessus. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'en tout cas, le PEA de sa femme était manifestement en gain. Ou en tout cas, ça, si ce n'était pas le cas, il y a un souci pour savoir si le PEA était en gain ou pas. Généralement, c'est une information qui se trouve sur les sites internet des banques. En tout cas, c'est très simple. Il suffit de calculer la valeur du PEA le jour du décès par rapport au montant total des versements. Généralement, on a donc ces deux informations.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre malgré tout quand il y a un décès d'un titulaire de PEA?
Alors, c'est vrai que dans le cadre de décès, on pense rarement à s'attarder un tout petit peu sur les placements détenus par le défunt. Or, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent à gagner ou à perdre, à s'intéresser ou en tout cas à se plonger un tout petit peu dans les placements du défunt. Donc, le PEA et le compte-titre, c'est des vrais sujets. En le cadre du PEA, il y a un vrai sujet fiscal, hein, parce que la question, normalement, c'est la valeur du PEA le jour du décès qui rentre dans l'actif successoral et qui sera soumis au droit de succession à taux progressif. Mais si c'est plus intéressant pour vous, vous pouvez demander à la banque de calculer la moyenne des 30 derniers cours de bourse qui précèdent le décès et faire ce petit calcul pour chaque titre du PEA.
Donc
on compare ligne par ligne le cours le jour du décès et la moyenne des 30 derniers cours, et ensuite vous pouvez choisir l'option qui est la plus intéressante.
Mais pour l'ensemble ou ligne par ligne?
Vous pouvez choisir ligne par ligne l'option qui est la plus intéressante pour vous. Alors avec un PEA à 5 000 € ou à 10 000 €, ouais, la différence sera
pas au bout, mais
si vous faites partie ou si votre épouse, en tout cas l'épouse de Jacques, avait un PEA d'un montant en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers, voire en millions d'euros, il y en a peu mais il y en a, la différence peut être substantielle. Donc, il y a un sujet décès du titulaire d'un PEA, il y a un sujet droit de succession.
Sur la valorisation.
Il y a aussi un petit sujet, si jamais, ça entraîne souvent beaucoup de questions, si le PEA, la valeur du PEA progresse ou baisse entre le jour du décès et le jour du partage, il peut y avoir, de la part des héritiers, un complément d'impôt à payer. S'il y a plus-value et s'il y a moins-value, les héritiers profiteront d'une moins-value en report d'imposition qu'ils pourront reporter sur les gains réalisés par ailleurs. Premier sujet, un sujet fiscal. En cas de le jour du décès d'un titulaire de PEA. Le deuxième sujet, c'est un sujet frais bancaires. Le PEA est automatiquement clôturé et vous savez que depuis quelques années maintenant, les frais bancaires sur le PEA sont plafonnés. Bon. Donc les frais de clôture sont plafonnés à 150 €. Par contre, ce qu'on ne dit jamais, c'est que si les héritiers décident de vendre des titres, bon ben là, il y aura bien sûr des frais de courtage. Bon, faut les regarder un petit peu plus en détail. Et si les héritiers décident de transférer les titres, ben là, décident le transfert des titres du compte-titre provisoire, donc de la personne décédée, vers leur compte-titre à eux. Et dans ces cas-là, il peut y avoir des frais de transfert. Donc là aussi, avec un pourcentage, avec des minimums par ligne, il faut se renseigner. Il faut se renseigner notamment pour les petits transferts, paradoxalement, pas pour les gros montants, mais pour les petits transferts, parce que là, si vous transférez un titre à l'héritier A, un titre à l'héritier B, eh ben, dans certains cas, malheureusement, les frais de transfert peuvent dépasser la valeur du titre transféré. Donc, c'est un point à regarder. Voilà, c'est en cas de succession, en cas de transmission, c'est un sujet à regarder, le traitement du PEA.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend de l'âge presque, il faudrait solder son PEA?
Ça veut dire que le PEA est la meilleure enveloppe fiscale aujourd'hui pour investir en bourse. Ça veut dire que si vous détenez un PEA, au bout de 5 ans, vous ne payez pas d'impôts. Bon,
d'accord,
sur vos gains.
Plus on prend de l'âge.
Mais ça veut dire aussi que le seul inconvénient du PEA, peu ou prou, c'est que vous passez par la case prélèvements sociaux en cas de décès, ce qui n'est pas le cas pour un compte-titre ordinaire. Donc oui, pour poursuivre votre raisonnement, ça veut dire que lorsqu'on prend de l'âge, il n'est pas forcément inintéressant de s'interroger sur est-ce qu'il conviendrait pas de clôturer le PEA et de transférer éventuellement les titres sur un compte titre ordinaire, où là, à condition de ne pas encaisser trop de dividendes, parce que les dividendes vont être imposés chaque année tandis qu'ils ne le seraient pas dans le cadre du PEA. Et dans ces cas-là, l'avantage de la manœuvre, c'est que si vous ne vendez pas vos titres, que vous les conservez 5, 10, 15, 20 ans, le jour du décès, le décès va éponger sur le plan fiscal la plus-value, donc il n'y aura pas un euro d'impôt à payer sur la plus-value et pas non plus un euro de prélèvements sociaux à payer sur la plus-value. Bien sûr, le montant du compte titre ordinaire rentrera dans la base taxable soumise au droit de succession à taux progressif,
mais effectivement,
comme c'est le cas pour le PEA, tout à fait.
Voilà donc, Jacques, quelques idées à bien avoir en tête, et donc effectivement, ces prélèvements sociaux sont normaux et on vous... hélas, recommande de faire confiance aux calculs de la banque, sauf à ce que vous avez dit quoi? Une mentalité d'archiviste particulièrement tatillon et que vous ayez consigné tout ça jour après jour. Bon, question de Laurent. Il va s'agrandir et il envisage de débloquer l'argent de son PEE et il se demande quand il doit effectuer le retrait.
Alors, plan d'épargne entreprise, donc la bonne nouvelle pour Laurent, c'est qu'effectivement, l'acquisition de la résidence principale, c'est un cas de déblocage anticipé de l'argent donc qui a été placé et épargné au sein de son entreprise, généralement alimenté automatiquement par l'argent de l'investisseur, par de la participation et de l'intéressement. De mémoire aussi, il en va de même pour la rénovation et pour l'achat donc alors d'une résidence neuve. Quand débloqué, il peut débloquer soit au moment de la signature de la promesse de vente, soit au moment de la signature de l'acte définitif. Le conseil du revenu, c'est de débloquer le plus tard possible, puisque comme ça, il optimisera le montant de la somme qui figurera sur son PEA. Notamment, il doit attendre le versement, et c'est d'époque, si j'oserais dire, le versement de l'intéressement et de la participation de l'année précédente. Et il faut savoir que les entreprises, pour celles qui ont un exercice clos le 31 décembre, ont jusqu'au 31 mai pour verser cet intéressement et cette participation. Donc, s'il peut attendre quelques jours. Il faut savoir que pour chaque motif de déblocage, vous ne pouvez retirer de l'argent qu'une fois du PEE. Donc, attention à un petit piège. Ne retirez pas, par exemple, 10 000 euros pour l'acquisition de votre logement au moment de la signature de la promesse de vente. Une autre somme pour ce même motif au moment de la signature de l'acte définitif. On peut retirer une seule fois pour un motif donné.
Voilà, Laurent, donc quelques bons conseils. Et puis après, vous stationnez l'argent sur votre compte s'il faut attendre un petit peu.
Il faut mieux prendre ces précautions. Donc alors avec le temps que vous ayez transmis l'ensemble des pièces ad hoc au gestionnaire de votre épargne salariale et le temps que les fonds soient transférés sur votre compte courant, ça peut prendre un peu de temps. Donc il ne faut pas hésiter à anticiper. Les services juridiques des gestionnaires de patrimoine d'épargne salariale sont assez tatillons sur les documents à produire. Donc il faut bien se renseigner là-dessus. Il ne faut pas s'en prendre au dernier moment. Vous avez entièrement raison.
Donc, quand devez-vous effectuer le retrait? Avec un petit peu d'avance, avec un petit peu de délai. Dominique veut savoir ce que vous pensez des SCPI dans un contrat d'assurance vie, il nous dit, par rapport notamment à la détention en direct.
Alors,
les SCPI font partie des unités de compte.
Voilà, alors les deux avantages, c'est que l'assureur vous garantit la liquidité des parts des SCPI, donc ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une détention classique en direct, où vous pouvez rester collé avec votre papier. Le deuxième avantage, et ça, c'est non des moindres, et c'est le principal avantage, c'est que vous profitez de la fiscalité de l'assurance vie. Donc là, peu ou prou, si vous débrouillez bien, ça signifie zéro impôt sur les gains retirés de vos SCPI, les fameux qu'on appelle les dividendes, même s'il s'agit en fait de loyers. Vous ne payerez que, donc, entre guillemets, les 7,2% de prélèvements sociaux, tandis que, je rappelle, en cas de détention, la fiscalité des dividendes versés par les SCPI en cas de détention directe, c'est votre taux marginal d'imposition, on va faire ça, 30% à minima pour un cadre, plus, les 17,2% de prélèvements sociaux, donc on monte à 50% contre 17,2% dans le cadre de l'assurance vie. Les inconvénients, c'est que vous rajoutez un niveau de frais, c'est peu ou prou 1%, et puis, c'est un peu la contrepartie de la liquidité qui des SCPI assurée par les les compagnies, et ben généralement elles ne vous reversent que 85-90% du montant des loyers. Donc est-ce que c'est un bon plan ou pas un bon plan de détenir?
Il y a quand même aussi que on peut pas choisir toutes les SCPI dans son contrat d'assurance vie.
Ça c'est autre
chose.
On a
le choix que de celles qui sont sélectionnées par son assureur.
Que celles qui seront effectivement référencées. Alors après ça, si vous êtes un nouveau investisseur, je dirais, vous pouvez choisir un contrat d'assurance vie qui référence une SCPI qui vous intéresse. Mais vous avez entièrement raison. En cas d'investissement en direct, vous avez accès à toutes les SCPI du marché, toutes les une centaine des SCPI, et tandis que si vous investissez via un contrat d'assurance vie, vous n'avez accès qu'aux SCPI, donc aussi à d'autres véhicules investis en pierre papier référencés par votre contrat. Voilà. Donc, in fine, en fait, la meilleure solution, tout dépend un peu de vos objectifs. Si vous êtes en phase de constitution d'un patrimoine, le Conseil du Revenu, c'est plutôt, Dominique, de privilégier l'investissement en direct, puisque vous pouvez faire comme ça, acquérir à crédit vos parts de SCPI, même si, je dirais, avec des taux aujourd'hui pour les crédits immobiliers autour de 4%, ouais, c'est pas forcément
moins intéressant.
C'est pas forcément le bon plan du moment. Et sinon, si vous êtes plutôt dans une optique pour disposer de revenus complémentaires peu fiscalisés, faites l'acquisition de vos parts de SCPI au sein de votre contrat d'assurance vie. Alors, ce qu'on dit peu, c'est que interrogez quand même votre interlocuteur pour savoir ce que deviennent les dividendes qui sont versés par la SCPI. Est-ce qu'ils sont versés sur le fonds en euros, ce qui est généralement le cas, ou est-ce qu'ils sont réinvestis en parts de SCPI? Voilà, c'est un... Il y a deux...
Ça, c'est la question des dividendes.
Deux modalités, voilà, la question des dividendes, et vous pouvez aussi interroger votre interlocuteur sur ce qu'on appelle le délai de jouissance, et au bout de combien de temps, donc alors, les SCPI vont vous verser des dividendes, il faut
et
le temps.
Et ça, c'est que ce soit en direct ou via l'assurance.
Alors généralement, de mémoire, il peut y avoir des délais de jouissance plus courts, il me semble, donc dans le cadre d'un investissement via un contrat d'assurance vie, à vérifier auprès de votre assureur et en fonction du contrat que vous avez choisi.
En allant un tout petit peu plus loin, Dominique a raison, encore aujourd'hui, de faire de la SCPI ? Vous restez confiant là-dessus, au revenu ?
Dominique, on reste confiant sur la pierre papier. Maintenant, il y a toute une panoplie de supports d'investissement possibles. Les SCPI, c'est un support d'investissement. Vous avez les OPCI, vous avez les SCI, vous avez la pierre, et vous avez également les foncières cotées en bourse. C'est vrai que dans la conjoncture actuelle, les foncières cotées en bourse sont particulièrement massacrées, comme c'est toujours le cas en période de hausse de taux d'intérêt. Ça ne vous a pas échappé, vous en parlez quasiment tous les jours sur votre antenne, voire tous les jours sur votre antenne. Les taux pourraient se stabiliser aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et donc voire commencer à rebaisser vers la fin de l'année. Donc c'est vrai que cette classe d'actifs, les Klépierre, les Gecina, les Unibail-Rodamco, ont été particulièrement matraqués. C'est peut-être donc alors le moment de commencer à prendre un petit ticket dans une optique de long terme. Attention, c'est de la bourse, tandis que les SCPI, c'est davantage un produit de rente, un produit de revenu, mais il nous semble en tout cas en termes de valorisation du support d'investissement qu'il y a peut-être plus de potentiel à regarder de ce côté-là, quoique, et en tout cas, ça ne s'adresse pas non plus aux produits boursiers aux mêmes personnes. Mais oui, il demeure du potentiel.
Allez, dernière question. Il nous reste 3 minutes pour répondre à Pascal, qui vient de recevoir pour son anniversaire un chèque de 1500 euros de la part de ses parents, et elle se demande si elle doit le déclarer.
Alors, a priori, on va répondre, je vais répondre directement et ensuite on va prendre un petit peu de hauteur. A priori, non. En plus, Pascal parle de ses deux parents, donc on peut partir du principe que c'est 750 euros pour chaque parent. Alors, il faut savoir que sa question est intéressante parce que l'administration fiscale a toujours refusé de répondre à ce type de questions, en tout cas, réponse de façon générale. En fin de compte, ce que les fiscalistes appellent le présent d'usage n'est pas imposé. Bon. Ni soumis aux impôts, ni aux prélèvements sociaux. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun les cadeaux que vous pouvez faire à vos proches. Il y a deux conditions qui doivent être remplies. D'abord, ce chèque doit être fait à une occasion particulière. Noël, un anniversaire, une réussite aux examens.
Donc bon. Là, ça rentre, c'est anniversaire.
Voilà, là, ça rentre. La deuxième chose, il faut que cette somme n'appauvrisse pas la personne qui donne. Bon. On peut considérer que c'est 750 euros pour chaque parent, sauf si les parents de Pascal sont particulièrement démunis, on peut considérer que ça les appauvrira pas et donc qu'il n'y a pas d'imposition. Au-delà, si c'était le prix d'une voiture, voire a fortiori d'un appartement, donc là effectivement il faut passer par la case don manuel ou donation classique. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer forcément par la case impôt, puisque, et ça il faut le répéter,
il y a
société, il y a des abattements légaux qui permettent à chaque parent de donner 100 000 euros à chaque enfant tous les 15 ans.
Bon, mais ça veut dire en gros que quelqu'un de très fortuné va pouvoir donner à une occasion particulière, vous l'avez rappelé, une somme plus importante quelqu'un qui sera moins fortuné.
Et
une voiture rutilante.
Sans aller jusqu'à une voiture, mais peut donner 1000, 2000, 3000 euros à l'anniversaire, plus à Noël, sans pour autant que les fourches codines du fisc, voilà, que le fisc lui tombe dessus.
Pour être très formel, il faut garder un peu la trace, justement, de l'anniversaire, c'est simple, c'est la date, mais...
Anniversaire à Noël, c'est simple. Éventuellement, il y a relativement peu... il faut être clair, hein, relativement peu de questions donc, de l'administration fiscale sur un sujet pareil. Maintenant, si vous êtes un tout petit peu à la limite, si vous pensez être un tout petit peu à la limite, si votre patrimoine se compte en millions d'euros, voire en dizaines de millions d'euros, et que vous allez jusqu'à offrir une voiture à un proche, à un enfant, dans ces cas-là, il faut peut-être mieux, effectivement, s'adjoindre les services d'un avocat fiscaliste pour s'assurer que vous êtes dans les
clous
par rapport au montant donc, de votre cadeau, et en tout cas, sur le plan fiscal, que vous risquez pas donc, que ce présent d'usage soit requalifié en donation.
Christian Fontaine, donc, et la rédaction du Revenu qui nous accompagnait il y a quelques jours. Dans un instant, 90 minutes business. Bonjour Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric Decoeur.
Votre menu du jour.
On va parler de la dette américaine et de Joe Biden qui assure avoir finalisé un accord budgétaire avec les Républicains. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet accord? On va en parler avec Antoine Larry-Gaudry. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? C'est Jean-Marc qui va nous dire que pas forcément. On parlera de permis de conduire. Ornicar à 10 ans sort une assurance pour les jeunes. On va faire un petit peu le bilan avec l'un de ses cofondateurs, Benjamin Guéniaud. Et puis, peut-on transformer l'immobilier de bureau en logement? C'est la question qu'on se posera dans notre débat à 12h45. Un beau programme chargé.
À suivre donc dans une poignée de secondes, 90 minutes business. Le marché parisien, lui, est à l'équilibre. Moins 0,01, 7318 points. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.